L'aparté de Clémence Olivier.
Si comme moi vous êtes consommateur ou consommatrice de sitcoms et autres dramas venus de l'autre côté de l'Atlantique, vous avez forcément croisé sur vos écrans des quarterbacks aux épaules carrées, des coachs autoritaires et des pom-pom girls aussi souples que mal considérées. Le football américain, ça fait partie de la culture américaine et c'est logique qu'on en parle dans les séries. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les séries doivent beaucoup au foot américain. Ou plutôt au Super Bowl, la finale de championnat de NFL organisée tous les ans aux États-Unis. Pour ceux qui ne voient pas du tout de quoi je parle, c'est l'un des événements sportifs les plus suivis au monde. Aux États-Unis, c'est même une institution. C'est simple, chaque début d'année, les audiences de cette finale, diffusées à la télé le dimanche en fin d'après-midi, sont vertigineuses. Plus de 100 millions d'Américains se pressent devant leur écran ce soir-là. Ça peut paraître étonnant, mais figurez-vous que le Super Bowl profite aussi aux séries. Depuis sa création à la fin des années 60 et sa diffusion à la télévision, le Super Bowl est une fête. Mais la fin du match ne signe pas la fin de la soirée pour autant. Elle se poursuit à l'écran. Et pour les chaînes NBC, Fox, ABC et CBS, qui diffusent la finale à tour de rôle, c'est une aubaine. Le moment est idéal pour capter l'attention d'un maximum de téléspectateurs. Et vous me voyez venir, c'est l'occasion rêvée pour lancer de nouvelles séries. C'est comme ça qu'en 83, NBC fait découvrir aux Américains le premier épisode d'une série d'action. Elle deviendra culte, c'est l'Agence Tourisque.
L'Agence Tourisque, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment.
Barracuda et Hannibal, ça vous parle? C'est une série qui connaît un vrai succès dans les années 80. Et on peut supposer que son exposition après le Super Bowl n'y est pas pour rien. Alors bon, ça marche pas à chaque fois, mais certaines réussissent à sortir du lot. Comme la série d'animation Family Guy en 99, ou la sitcom décalée American Dad en 2005. Et cette année, c'est le reboot de The Equalizer, une série d'action avec Queen Latifah, qui tentera sa chance après le Big Game. Mais avec le Super Bowl, les chaînes ne cherchent pas seulement à faire découvrir de nouvelles séries. La stratégie, ça peut être aussi de donner un coup de boost à des fictions déjà existantes et déjà populaires. Et pour que ça fonctionne, il y a plusieurs écoles. L'une des techniques, c'est de choisir une série phare type Grey's Anatomy et de passer un épisode qui se termine sur un énorme cliffhanger, une fin avec un suspense de dingue, pour être sûr que les téléspectateurs regardent l'épisode la semaine d'après. C'est super malin. C'est ce qu'a fait ABC en 2006 avec cet épisode de la saison 2 où une bombe est coincée dans le thorax d'un patient. L'héroïne, Meredith Grey, est alors en première ligne.
Elle panique, il faut évacuer rapidement.
Je l'abandonne pas.
Grey, tu sors.
Je reste avec elle.
Vous devez faire sortir
Anna.
Tout le monde, Dr. Burke.
C'est mon interne,
écoutez,
elle est sous ma responsabilité.
Anna, vous ne devez pas aller.
Tout se passera bien. Va avec Dylan.
Toi, va avec Dylan. Non. Anna, regardez-moi.
Est-ce que la bombe va exploser? J'en frémis encore. Ce soir-là, 37 millions d'Américains sont devant leur écran. Ils seront 25 millions la semaine suivante, soit 5 millions de plus que les épisodes de début de saison. Imaginez gagner 5 millions de téléspectateurs, c'est comme conquérir l'équivalent de l'audience d'un épisode de Koh-Lanta chez nous en France. Bref, c'est colossal. Mais d'autres producteurs préfèrent séduire les Américains en sortant le grand jeu, c'est-à-dire en mettant la main au portefeuille pour assurer un grand spectacle. Comme la Fox en 2011 avec Glee, cette série pour ados dans laquelle cheerleaders et quarterbacks, entre autres, poussent la chansonnette. L'épisode proposé ce soir-là autour de la chanson Thriller de Michael Jackson est le plus cher jamais produit pour la série. Et logiquement, Glee réalisera un record d'audience. Mais le plus gros coup, c'est NBC qu'il réalise en 96. On est alors en pleine diffusion de la saison 2 de Friends. À l'époque, la sitcom qui raconte le quotidien d'un groupe d'amis à New York est déjà populaire. Mais les producteurs veulent aller encore plus loin. Ils décident d'inviter Julia Roberts, Brooke Shields et même l'une de nos stars nationales, ou presque.
Oh, mon Dieu, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
Qu'est-ce qu'il y a?
C'est Jean-Claude Van Damme. Je ne savais pas qu'il était sur le tournage, il est tellement sexy.
Rappelez-vous.
Les muscles de Bruxelles. Wambam, Van Damme. Est-ce que tu as vu Time Cop?
Non, t'es sûr qu'il était dedans?
C'est pour dire, c'est lui qui changeait la face du monde.
En France, cet épisode s'appelle « Celui qui retrouvait son singe ». Mais aux États-Unis, son titre est une référence évidente au match de l'année « The One After the Super Bowl ». Celui après le Super Bowl. Ce soir-là, 52 millions de téléspectateurs restent devant leur écran. C'est considérable. Imaginez, c'est 47% de l'audience. Autant dire, la moitié de tous ceux présents ce soir-là devant leur télé. La suite, on la connaît. Friends deviendra l'une des séries les plus regardées de l'histoire de la télé, grâce à son rythme, son humour efficace, son jeu d'acteur, mais aussi peut-être un peu grâce au Super Bowl.